Maintenant, on retrouve l'expert sport et business pour le réseau Cogeco. On lui parle chaque semaine. Sa présence est toujours appréciée. C'est Ray Lalonde que vous pouvez écouter chaque jour sur le podcast Focus sur le web. Très facile à trouver sur YouTube. Bonsoir, Ray.
Bonsoir, Dan.
Comment vas-tu?
Ça va très bien. Merci, toi.
Oui, ça va bien. Ray, la première question que j'aurais pour toi, évidemment, les matchs hors concours sont commencés aux quatre coins de l'Amérique du Nord. Il y a même eu la fameuse promotion Kraft Hockeyville hier qui était présentée dans une petite municipalité au nord de London, Lucan. Évidemment, les partisans là-bas ont été sûrement enchantés de voir John Tavares avec un chandail des Maple Leafs sur le dos. Austin Matthews ne jouait pas, on essaie d'alterner d'un match à l'autre. Ce soir, Drouin joue au Centre Bell. Évidemment, Kotkaniemi ne sera pas là. Peut-être qu'on pourrait le voir demain. Les gens de Québec sont en questionnement à savoir si Ovechkin et Kuznetsov vont être sur la patinoire demain au Centre Vidéotron. Dans quelle mesure, la question qui arrive après un long préambule quand même, dans quelle mesure, Ray, c'est important pour les équipes de la Ligue nationale de satisfaire un peu leur clientèle en match pré-saison et en offrant un bon produit avec des joueurs vedettes?
Écoute, Dan, c'est une excellente question. Je pourrais t'en parler pendant de longues minutes. Ce que je veux dire, une chose, c'est que tu sais, on prend les partisans parfois en otage. Et là, on se retrouve dans une situation de plus en plus où on conteste les prix, les hauts prix pour aller voir un match de hockey, un match de football, peu importe. Dieu sait que les matchs de la NFL en pré-saison sont difficiles à absorber pour un consommateur parce que c'est vraiment pas du football du même niveau. La plupart des joueurs réguliers de la NFL jouent une série de jeux puis quittent le match après. T'sais. Alors, dans le hockey, puisqu'on demande aux gens de payer le prix d'un match de saison régulière, on doit être meilleur dans l'offre et dans la perception de valeur. Il y a un règlement qui dit qu'au minimum 8 joueurs avec une certaine expérience de la Ligue nationale doivent être en uniforme.
Oui,
ça inclut le gardien substitut aussi en passant.
Ouais.
Alors, c'est jamais sûr des minutes qu'ils vont jouer. Mais une chose qui est claire, moi je pense aux Capitals de Washington. Je pense aux Devils du New Jersey qui ont joué lundi avec une équipe B. Pendant que les Devils envoyaient une équipe B au Centre Bell contre les Canadiens, ben, il y avait une autre équipe des Devils qui jouait dans un autre match. Je pense que c'était à domicile. Donc, ils ont réussi quand même à splitter en deux, recevoir de l'argent des Canadiens, parce que les Canadiens leur ont fait une promesse d'un chèque comme somme garantie. Et pendant ce temps-là, ils se sont fait un match à domicile où ils récoltaient encore de l'argent. Et pendant ce temps-là, les gens à Montréal reçoivent une équipe de deuxième niveau. Et là-bas, ils n'ont pas leur équipe pleine non plus. Alors là, on est en train de diluer la qualité de l'offre. Mais, cependant, on garde toujours le même prix. Alors, si tu me dis, c'est-tu important? Bien sûr que c'est important. Les gens à Québec ne se déplaceront pas pour aller voir le remplaçant d'Ovechkin ou de Kuznetsov. Ils vont vouloir voir Holtby dans le filet. C'est comme ça que ça marche. Alors, si on leur offre pas ça, pourquoi on leur fait pas un prix réduit? Mais j'ai pas vu de prix réduit sur le tableau, le menu à Québec. Et c'est la même chose à Montréal ce soir contre les Panthers. On continue de croire que les partisans vont, de façon loyale et fidèle, est toujours en rendez-vous. On les prend pour acquis, Dan. C'est une erreur majeure. C'est quelque chose qui doit se corriger tout de suite. La même façon qu'on corrige le prix des concessions alimentaires dans plusieurs stades aux États-Unis, parce que les équipes qui ont le plus de vision ont vu venir cette chose-là et décident d'être plus sensibles aux demandes des partisans.
Et j'ajouterais à ce que tu viens de dire que pour le match de demain au Centre Vidéotron, les gens de Québec, je pense, ont réagi de la bonne façon en se disant: nous, on juge que c'est un match de deuxième ordre. On va y aller, mais on n'achètera pas les billets à 167$. On va acheter les billets à 70, 60, 48 et même peut-être 39. Donc, la plupart des billets abordables demain ont trouvé preneur. Ce qui reste, c'est les billets au centre de la patinoire. Des deux côtés, il en reste en masse. J'ai rarement vu autant de publicité faite pour un match dans les 10 jours ou 2 semaines précédant le match hors concours. Ça fait une dizaine d'années qu'on en reçoit. Et j'ai rarement vu autant de sièges encore disponibles à 24 heures de l'événement.
Bien là, ça veut dire que les Canadiens et la Ligue nationale doivent comprendre que les gens de Québec ont décidé qu'il n'y avait pas beaucoup de valeur associée à ce match-là. C'est un peu comme le baseball majeur puis les deux matchs, les Blue Jays,
ouais,
à Montréal en début d'avril, fin mars à chaque année. Dan, à un moment donné, honnêtement, c'est que qu'est-ce qu'on doit faire de plus pour prouver? Je veux même pas entrer dans le débat, est-ce qu'une équipe est viable à Québec? Ce que je veux te dire, par exemple, c'est que les gens de Québec n'ont pas besoin de prouver à personne qu'ils sont des fans de hockey cultivés et qui apprécient le bon spectacle. Ben non, c'est pas une attrape-nigo, là. On n'est pas là pour dire non, si on n'est pas là, ils vont nous le reprocher.
C'est déjà prouvé, ça.
Ils savent que Québec est une ville de hockey. Ils savent que la ville va être passionnée.
Oui.
C'est pas un test. Donc, là, on a le droit d'être, mettons, un consommateur averti.
Exact, exact. Les Golden Knights ont fait jaser l'année dernière par leur compte Twitter, par leur performance sur la patinoire. Et moi, j'ai été un peu surpris. Je suis allé une vingtaine de fois dans ma vie à Vegas. Je connais bien cette ville-là. Et j'ai été un peu surpris et j'ai très hâte de t'entendre là-dessus. La semaine dernière, les Golden Knights ont annoncé un partenariat avec un casino. Et là, il y a des paris sportifs dans les casinos. Tu me vois venir.
Oui.
Des gens qui sont dans un sport professionnel qui est en partenariat avec le casino. Tout le monde gage sur le sport maintenant. Dans quelle mesure, un jour ou l'autre, la Ligue nationale va être en pseudo-conflit d'intérêts là-dedans?
Bien, premièrement, c'est une bonne question parce que c'est juste récent, là, la décision de permettre le pari sportif sur des matchs aux États-Unis.
Oui.
Mais chaque État doit le gérer de façon indépendante. C'est fédéral, mais l'application se fait État par État. Alors évidemment, le Nevada était un des États qui avait le droit.
Oui.
Le New Jersey, pour la ville d'Atlantic City en particulier, et pour certaines pistes de course, c'est l'hippodrome,
oui,
pour les courses de chevaux. Bon, là, la NBA, il y a à peu près un mois, a annoncé un partenariat avec MGM au niveau de la Ligue, où MGM va pouvoir faire la promotion des équipes et des marques et des logos et de toute l'identité de la NBA, en échange de 3 paiements qui vont totaliser 25 millions pour 3 ans. C'est une très petite somme que Adam Silver a décidé d'accepter, mais ce n'est que le début. Et encore une fois, la NBA est en avance des autres. Mais là, les Golden Knights, c'est la seule équipe professionnelle à Las Vegas pour le moment.
Oui.
Les Raiders arrivent dans 2 ans,
oui,
et la NBA va y arriver un jour aussi. Alors, les Golden Knights, encore une fois très avant-gardistes, se disent, ben écoute, on symbolise un peu, nous, le show business à Las Vegas. Et évidemment, ce qui vient avec, c'est-à-dire le pari, la mise, les gageurs, les casinos. Alors, ils ont fait eux-mêmes leur propre entente. Comme ils ont maintenant accès à cette nouvelle source de revenus, pourquoi pas être les premiers à y aller? Mais je te garantis, Dan, que ce n'est qu'une question de temps avant que les autres ligues s'associent avec des casinos du calibre de MGM,
okay,
avec le pari sportif, parce que c'est maintenant légal. Et c'est une question après de mettre les paramètres du côté des ligues et,
exact,
des équipes,
oui,
pour protéger l'intégrité du match, du résultat sportif et des ligues. Et ça va se faire. Pourquoi? Parce que tout le monde y gagne, Dan. On élimine un petit peu de l'argent noir, on met ça plus légal, c'est plus transparent. Il y a des paramètres de sécurité pour les consommateurs autant que pour les équipes et l'intégrité des ligues. Alors, regarde, c'est une recette gagnante pour tout le monde. On ne peut pas s'éloigner de quelque chose qui fait partie de nos vies. C'est des milliards de dollars annuellement misés illégalement. Si je te gage 2 $ pour un match ce soir, en principe, c'est illégal. En principe.
Oui.
Mais ce que je veux dire, on sait tous que tout le monde le fait pour le plaisir.
Exact.
Faut pas que ça devienne un problème. Faut que ça devienne quelque chose qui est simplement contrôlé.
Oui. Et j'ajouterais avec les Golden Knights, puisqu'on parle d'eux, cette semaine, je voyais StubHub qui donnait le classement des équipes les plus en demande pour les billets. Et
oui,
ça a tellement bien fonctionné l'année dernière que c'est l'équipe qui est la plus en demande sur StubHub pour l'achat de billets, les Golden Knights, devant les Leafs de Toronto. Il y avait un gros pourcentage. Je pense que c'est 27% de plus Vegas versus Toronto, qui est deuxième.
Oui, puis il n'y a rien qui me surprend là-dedans. Toronto, dire de quelque chose aux dépens de Toronto, c'est quand même pas peu dire, parce que Dieu sait que les Maple Leafs, c'est dur à avoir des billets là aussi.
Exact.
Il y avait une époque avec les Canadiens, Dan, je vais l'admettre, là, en toute modestie, on avait toute une équipe de gens dans le marketing, là.
Oui.
Mais il y avait une époque où nos matchs pré-saison étaient tous vendus et à capacité, parce,
okay,
que les matchs pré-saison étaient la seule autre avenue possible pour nos partisans de venir voir jouer le club.
Oui.
Et pourquoi? Parce qu'il y avait une telle demande, une telle rareté. Ben, exactement ce qui se produit à Las Vegas. Essaie d'aller voir un match de Las Vegas. Attends que Winnipeg ou Nashville ou les Kings de Los Angeles se présentent à Vegas cette année. Tu regarderas sur StubHub le coût de ces billets-là en,
ouais,
deuxième année, parce que tous ceux qui n'avaient pas compris et qui n'avaient pas cru l'an dernier, ils sont tous au rendez-vous cette année.
Ils veulent y aller. OK. Ce matin, heure du Québec, il y avait un match en Chine, un match pré-saison entre les Flames et les Bruins. Les Bruins ont gagné 3-1. Le pointage m'intéresse très peu dans cette histoire-là. Des matchs pré-saison en Chine, on a vu il y a quelques années, Ray, on a vu la Ligue nationale débuter son calendrier régulier avec des matchs à Stockholm, en Suède, de mémoire, en Finlande également. Les matchs présentés en Chine pour la Ligue nationale aujourd'hui, est-ce que c'est un lien direct avec les Olympiques de 2022 pour Pékin, ou il y a plus que ça sur leur planche à dessin?
Honnêtement, je vais dire oui aux deux, parce que je vais être un bon joueur.
Okay.
Mais honnêtement, je suis un petit peu déçu de comment la Ligue nationale... S'il y a un dossier que je connais dans le sport, Dan, je vais te dire, là, c'est le niveau international. Pour avoir travaillé 8 ans au département international de l'NBA en Europe, il y a une chose que je sais comment faire, c'est de mettre en marché dans un nouveau marché. C'est de prendre un produit puis l'expatrier, l'exporter dans le monde entier.
Okay.
Alors, je vais te dire une chose. Moi, personnellement, je ne comprends pas encore que la Ligue nationale de hockey, en 2018, n'ait pas plusieurs antennes satellites dans le monde entier à temps plein. On parle de hockey puis de globalisation. On parle de mettre en marché un produit nord-américain très, très attirant. Mais évidemment, c'est pas le soccer, c'est pas le basketball, des sports de popularité, c'est le hockey. Mais pour vendre le hockey, tu as besoin de gens, de soldats, là, dans les pays, à temps plein. Et là, on fait des excursions en Chine, puis c'est bien cute pour le côté PR, puis le côté, ben regarde, on le dit, on le fait, puis on en parle, on est en Chine. Mais après ça, tu quittes, puis tu fais quoi? Oui, ils vont dire, oui, on a toutes sortes d'activités pour les enfants, des programmes de hockey qu'on a mis en place. Ben oui, je sais, un des employés, un bon confrère qui a participé à ça en Chine il y a quelques années avec les Canadiens, parce que les Canadiens ont aussi fait des efforts en Chine. Les Maple Leafs aussi ont fait des efforts en Chine. Il y a 1,5 milliard de gens, consommateurs, prêts à absorber puis consommer le hockey de la Ligue nationale. Mais je comprends pas pourquoi que la Ligue nationale, je m'attends pas à ce qu'il soit au niveau de la NBA, mais je m'attends à ce qu'il soit au niveau de dire, on est en 2018, on est une multinationale, on veut conquérir le monde, Dan. Bien, c'est sûr qu'il faut être là. Fait que, personnellement, oui, c'est lié aux Jeux olympiques, on s'en va à Pékin en 2022, mais à la fin, c'est une affaire à temps plein, ça. Faut s'engager à long terme, faut investir du temps, des ressources puis de l'énergie, puis bâtir une brique à la fois. Ça, je le vois pas.
OK. Évidemment, tout le monde s'attend à voir une équipe arriver à Seattle un jour ou l'autre, mais il y a du nouveau dans le processus d'expansion. Ça pourrait être annoncé officiellement bientôt.
Oui. Ben écoute, il restait une embûche, un obstacle. C'était un vote sur une étude d'environnement et les gens se sont abstenus de voter, donc ça a passé.
Okay.
Finalement, il n'y a plus de clôture, là. C'est fini, là. La semaine prochaine, ou pardon, l'autre semaine, rencontre avec le comité exécutif. Ça, c'est les 5, 6, 7 propriétaires, Gary Bettman, Bill Daley, ainsi de suite. Ça, c'est comme pour préparer le terrain pour le vote au niveau des gouverneurs au mois de décembre en Floride. Ce vote-là, c'est une assurance que ça va passer. On est rendu là juste à passer des étapes. Et le groupe à Seattle est prêt. C'est Tim Laiwicki qui dirige la rénovation. La ville a voté 7-0 en faveur de la rénovation. Écoute, la rénovation, c'est 700 millions de dollars US. C'est 910 millions de dollars canadiens. C'est plus cher que le club.
Wow.
Puis on rénove le Key Arena.
Ouais.
Mais c'est parce qu'on va venir bientôt dans une équipe de la NBA. Puis on comprend que cette rénovation-là, c'était une meilleure option que d'en bâtir un nouvel amphithéâtre. Et c'est pour ça que ça a passé 7-0. Parce que les gens à Seattle sont contents qu'on n'ait pas besoin de reconstruire, mais qu'on va garder un emplacement qui existe déjà, puis on va l'améliorer. 900 millions, ça va faire des belles améliorations. Mais c'est fini, ça, ce dossier-là. Seattle va être annoncé. Je ne prendrai pas la parole au nom de Gary Bettman, mais on comprend très bien le processus. Ils cherchaient une équipe dans l'Ouest. Ils cherchaient une 32e équipe. Seattle, ça va être un marché phénoménal. Et après, là, on devra se mettre à penser, Dan, à 33 et 34.
OK. Avant de te laisser, je veux te parler des bagarres au hockey. Tu es un gars de sport et de business. Est-ce que la Ligue nationale, en date d'aujourd'hui, est aux prises avec une patate chaude ou ça fait déjà quelques années que ce débat-là est lancé puis un jour ou l'autre, on va devoir éliminer les bagarres au hockey?
Ben, oui. Moi, je pense que c'est un dossier qui est clos. Le problème, c'est qu'on essaie de le garder en vie parce que le hockey est souvent mené par des traditionnalistes. On pense que c'est une façon de respecter l'adversaire. On pense qu'on veut protéger les petits joueurs. Dan, depuis 5 ans, il n'y a jamais eu autant de petits joueurs qui ont été repêchés. Je pense à un jeune comme Samuel Girard qui évolue à Shawinigan dans la Ligue junior majeure, que je l'ai vu de mes yeux, proche de lui. Écoute, c'était tout un joueur d'hockey.
Oui.
Il mesurait 5 pieds 10, probablement 170 livres. C'est ce que j'appelle un poids léger.
Ben
mais
oui.
C'est tout un talent de hockey. Il y en a plein comme ça depuis quelques années qui se font repêcher, qui aspirent à de belles carrières. Ils ont de la puis là, je parlais d'un défenseur. Là. Il y a de la place pour ces joueurs-là dans le hockey. Donc, il y a moins en moins de place. Puis les gens sont plus sophistiqués que jamais. La bataille au hockey, ça attire une clientèle que j'appelle une niche. Mais on voit des joueurs qui se blessent, comme Nicolas Deslauriers. On a des problèmes sérieux avec les blessures à la tête. Puis la Ligue nationale de hockey n'est pas nécessairement la plus... innovatrice, leader dans cet aspect-là d'admettre qu'on a un problème de contact physique à la tête. La NFL est bien en avant de la NHL à ce niveau-là. Donc, personnellement, les batailles au hockey, ça symbolise des blessures à la tête. Tu as juste à écouter les propos de Dan Carcillo, un ancien pugiliste dans la Ligue nationale de hockey, qui a fait pour les Flyers, qui a fait pour les Coyotes, puis qui a passé sa carrière à se battre, puis qui aujourd'hui s'aperçoit et parle ouvertement aux lignes ouvertes et aux entrevues aux États-Unis sur les dangers de blessures à la tête. Il a pris un rôle d'ambassadeur contre les batailles au hockey. Alors, Dan, c'est une situation qui doit arrêter. Je pense qu'on est rendu là. Il faut l'accepter. Il n'y a pas un billet qui va se vendre de moins à cause de l'absence de bagarre au hockey.
Qu'est-ce que ça va prendre pour qu'on en arrive là?
Et j'espère que ça ne prendra pas une blessure très grave. J'espère que ça va prendre une espèce de un consensus de tête bien équilibrée avec Gary Bettman en tête, qui accepte que le hockey évolue de la même façon que le jeu évolue, que les règlements évoluent, Dan. Je pense que c'est juste une situation qui est très naturelle. De toute façon, il y a rarement des goons avec des équipes aujourd'hui, tu le sais. Il y a rarement on y a souvent des matchs sans bataille, évidemment.
Oui.
On accepte très bien que le quatrième trio peut être composé de joueurs style plombier plutôt que style bagarreur. Alors, je pense qu'on s'en va naturellement vers ça. Mais il ne faut pas attendre que des gars comme Delaurier, parce que ça coûte cher aux Canadiens, un Delaurier.
Oui.
C'est un gars qui avait un rôle important à jouer, puis il était très courageux d'y aller le faire, mais il n'avait pas besoin de faire ça. Et là, il est absent pour quelques semaines.
Tout à fait.
On perd un joueur, un atout, puis on souffre davantage.
Pour les mauvaises raisons. Un gros merci, Ray. Bonne soirée à toi.
Salut, Dan. Merci beaucoup. Au plaisir.
À bientôt. Real Lalonde, que vous pouvez suivre sur Twitter, toujours intéressant à suivre. Real Lalonde. Et concernant la bagarre de Delaurier lundi avec le Canadien, le jeune Finlandais Kotkaniemi a affirmé après le match, il a dit « C'est la première fois que je voyais une bataille au hockey dans toute ma vie. » Ça vous donne une idée à quel point il y a une différence entre l'Europe et l'Amérique du Nord quand même, hein? Oh, on a pris du retard un peu. C'était pour une bonne cause quand même. On s'arrête dans l'avant-match. On ne reviendra pas là.